Europe 1, en balade avec Alexis Michalik, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec Alexis Michalik que nous partons en balade aujourd'hui. Acteur, auteur, metteur en scène, réalisateur, romancier, ce trentenaire ébardé de décorations, déjà 4 Molières. On l'a surnommé le Wonderboy du théâtre. 4 de ses pièces se jouent en ce moment à Paris, Edmond au Palais Royal, le Porteur d'Histoire au Théâtre des Béliers, Intramuros à la Pépinière, le Cercle des Illusionnistes au Théâtre de l'Œuvre. Et il sort son premier roman, Loin, aux éditions Albin Michel. Alexis Michalik habite au 10e étage d'un immeuble de l'Est parisien. C'est là qu'il nous a donné rendez-vous.
Frédéric Taddeï, en balade avec Alexis Michalik sur Europe 1.
Bonjour Alexis Michalik.
Bonjour.
Vous habitez au 10e étage. Vous avez une belle vue.
Oui, j'ai une jolie vue. Vous voulez aller la découvrir?
Oui, avec plaisir. J'aime beaucoup les vues de Paris.
Ben, moi aussi, mais c'est la première fois que j'en ai une. Je suis très content. Ça fait 36 ans que j'habite à Paris et là, je peux regarder un peu les toits.
Oui, la Tour Eiffel au loin, quelques très hauts immeubles qu'on ne soupçonne pas à Paris. On croit toujours qu'il n'y a aucun immeuble de grande hauteur.
C'est ça, à droite, c'est les Orgues de Flandre, ça s'appelle.
Ah,
joli.
Oui.
Et à gauche, là, on aperçoit les buts de Chaumont, au fond.
En effet.
Et en bas, c'est le canal.
Et là, c'est une école juste en face.
Non, ouais, ça ressemble à une totale. École. Il y a une école maternelle, primaire, un collège, lycée.
Donc vous entendez toutes les heures des récréations.
Oui, mais c'est plutôt agréable comme bruit. Je préfère ça que les voitures.
Vous avez 4 pièces à l'affiche. Vous les avez écrites ici?
Non. J'écris plutôt quand je suis en voyage, moi.
C'est vrai?
Ouais, j'écris pas trop à la maison.
Mais si on en croit le roman qui vient de paraître, Loin, vous êtes tout le temps en voyage.
Souvent, ouais. Souvent,
je suppose,
ouais,
que vous êtes allé partout, vous vous racontez.
J'aimerais bien répondre oui, mais non. Il y a quand même pas mal d'endroits que j'ai jamais visités.
Ah oui, moi je suis presque allé partout.
C'est vrai? Oui, vous avez bien de la chance. Alors, c'est quoi les seuls endroits où vous n'êtes pas allé?
Le Soudan.
Ah oui, c'est vrai.
Il faut dire que c'est un roman qui traverse l'Europe,
ouais,
qui va jusqu'en Nouvelle-Calédonie, où j'étais cet été.
Ah, c'est vrai? Vous avez découvert pour la première fois?
Ouais, exactement.
Ouais, c'est très beau, les nouvelles. Ça, j'y suis allé pour le coup, avec mes spectacles. Justement.
Oui, ouais, ça, ouais, aide. Hein, de...
Bah ouais, ça voyage.
Donne un but de voyager.
Bah, j'ai la chance de faire des spectacles à part Edmond, qui sont plutôt légers en scénographie. Et donc, ça voyage beaucoup dans tous les territoires francophones. Donc, c'est une chance énorme de pouvoir aller en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans le nord de l'Afrique, au Liban, tout ça avec des spectacles.
Et après, de les raconter dans un gros roman qui fait plus de 600 pages, vous l'avez écrit ici, lui?
Alors non plus, non. J'écris rien à la maison. Moi, j'ai besoin d'avoir l'esprit libre pour écrire. Et quand je suis à la maison, je suis sur d'autres choses, quoi.
C'est bizarre, normalement, ouais. C'est quand on est chez soi qu'on a l'esprit libre et qu'on peut travailler. Non,
ouais, je sais, mais non, mais parce que comme si je faisais qu'écrire, ce serait facile. Mais moi, j'ai d'autres activités, comme je mets en scène, donc je suis souvent en audition, je suis en train de chercher des acteurs, je suis en train de faire de la promo, ce genre de choses qui prend pas mal de temps dès que je suis à Paris. Alors que dès que je suis hors de Paris, eh ben, les spectacles ne jouent pas, je suis tranquille, je ne suis pas obligé d'aller au théâtre le soir.
Et ces 640 pages, alors vous les avez écrites toutes?
À plein d'endroits différents. Je peux vous dire que je l'ai terminé au Canada et en Corse. J'en ai écrit une bonne grosse partie au Maroc parce que je tournais une série qui s'appelait Kabul Kitchen à Casablanca.
En tant qu'acteur.
Et donc j'avais du temps libre puisque quand on est acteur et qu'on est à l'étranger, on tourne peut-être 2-3 jours par semaine et le reste du temps, on est tranquille. Donc j'écrivais beaucoup là-bas. Et voilà, je l'ai écrit un peu partout de par le monde et ça m'a pris à peu près 3 ans.
3 ans quand même.
Ouais, bah parce que je faisais d'autres choses en même temps.
Edmond, ça vous a pris 6 mois, je crois.
Oui, mais alors juste l'écriture. En vrai, la gestation, c'est bien plus long que ça. Edmond, c'était quelque chose que j'avais en tête il y a 15 ans. Et Loin, ça fait bien 10 ans que je l'ai en tête. En fait, l'année à laquelle se passe le roman, en 2008, je pense que c'est l'année où j'ai eu l'idée de cette histoire.
Le point de départ, c'est une carte postale reçue 17 ans après qu'elle ait été envoyée. C'est possible que le courrier s'égare pendant si longtemps?
Non seulement c'est possible, mais moi, je trouve ça génial, ces histoires.
Oui, il y a eu plusieurs fictions comme ça. Dont le point de départ, c'est une lettre qui arrivait très très en retard.
Exactement.
Je me suis toujours demandé si ça arrivait vraiment.
Oui, ça arrivait et parfois même en fait le bénéficiaire c'est celui qui récupère un timbre qui du coup est très daté et qui parfois prend de la valeur énorme à travers les années et les dizaines d'années. Donc moi j'adore ce genre d'histoire de lettres perdues.
Oui, et de lettres retrouvées, parfois c'est horrible.
Voilà, bah là en l'occurrence elle est retrouvée, mais c'est pas grand chose, c'est juste une carte postale sur la lettre et il y a marqué quelques mots: je pense à vous, je vous aime, signé Charles. Et Charles, c'est le père d'Antoine, notre héros.
Un père qui a disparu donc il y a 20 ans et qui l'a En fait, donner de ses nouvelles et à partir du cachet de la poste, un petit village autrichien, il va marcher sur les traces de son père en entraînant sa sœur et son meilleur ami.
Exactement.
Et ça va donner un périple invraisemblable à travers l'Europe. Ils vont traverser l'Allemagne, la Hongrie, la Turquie, l'Arménie, la Russie, la Géorgie, l'Égypte, le Soudan, le Tchad, Djibouti,
voilà.
L'Inde jusqu'en Nouvelle-Calédonie.
Exactement. Bon, vous avez essayé, vous avez raconté tout le roman. Il n'y a plus de suspense maintenant.
Oh bah non, je pense que le suspense, c'est totalement ailleurs.
Bon, ça va.
Frédéric Taddeï se balade avec Alexis Michalik sur Europe 1.
Alors, vous avez dit que c'était un roman généalogique.
Oui, c'est même je dirais que c'est un roadbook généalogique. C'est une bonne formule, c'est pas de moi, mais je me suis dit, mais c'est parfait, c'est exactement ça, c'est un roadbook.
C'est vrai que la généalogie, ça obsède tout le monde, mais d'autant plus celui qui a perdu quelqu'un.
Bien sûr, et puis c'est... Oui, c'est une quête des origines, c'est une quête de l'identité, parce que au départ, Antoine et Anna, les protagonistes, sont persuadés d'être bretons et uniquement bretons. Et plus ils vont s'avancer, et plus ils vont enquêter sur leur père, plus ils vont se rendre compte que ce père lui-même enquêtait sur sa propre famille, sur ses propres origines. Et ils vont se rendre compte évidemment qu'ils ont bien plus d'origines que ça. Et ce qui est mon cas, puisque ma mère est anglaise, mon père est d'origine polonaise, ma grand-mère était australienne, et donc j'ai beaucoup d'affection pour les gens qui ont plein d'origines et des histoires un peu diverses.
Est-ce que tous vos Molières sont ici ?
Non, ils ne sont pas tous ici. Non, il y en a que deux qui sont là, je crois, deux ou trois, je ne sais plus.
Ouais. J'en ai eu combien en tout ? Vos pièces en ont cumulé combien ?
Ah, c'est compliqué. Selon les comptes, ça diffère.
Ah oui ?
Ouais. Disons que si on considère que le porteur d'histoire en a eu deux, que le cercle en a eu trois et qu'Edmond en a eu cinq, ça fait 10. Néanmoins, les Molières du porteur d'histoire et du cercle sont les mêmes, en fait, parce que c'était pour les deux que j'ai reçu. Moi, en tout cas, j'en ai quatre,
voilà,
personnellement.
Il y en a aussi certains pour les interprètes.
Les acteurs, le théâtre, les producteurs, tout ça. Et mais donc, il y en a deux ici et deux qui sont encore au théâtre du Palais Royal, où ils sont exposés à la vue de tout le monde. C'est super chouette. Ça ne sert pas à grand-chose, un Molière. Hein. Quand on l'a chez soi, c'est juste un truc qui prend de la place, au final.
On va partir en balade dans Paris. Il fait très beau. Profitons-en. Ouais. On va quitter votre balcon. Il y a beaucoup de plantes vertes. C'est vous qui les arrosez ?
C'est moi et un système automatique qui est installé
c'est
là-bas.
Pourquoi vous êtes
pratique.
En voyage ?
Je suis quand même beaucoup en voyage.
On se retrouve en bas de l'immeuble.
Europe 1, en balade avec Alexis Michalik. Jusqu'à midi et demi, Frédéric Taddeï vous fait découvrir le Paris de l'acteur Alexis Michalik, qui a décidé de continuer leur balade dans le quartier de la Villette.
Nous voilà au pied de l'immeuble avec Alexis Michalik. Vous nous emmenez où, Alexis ?
Je vous emmène dans mon petit bistrot de référence, qui était le seul bistrot qui était là quand je suis arrivé il y a 12-13 ans dans le quartier. Maintenant, il y en a plein d'autres qui ont ouvert le long du canal de l'Ourcq, mais celui-là, c'était un peu le premier. Et là, on est en train de traverser la place de Joinville ou la place de Beach, selon les appellations, et c'est là où il y a le marché.
Le marché, oui, la place de Beach, c'est celle qui est juste de l'autre côté de l'église, avec son joli square.
Exactement, avec un petit kiosque à musique. Et le dimanche, il y a des gens qui jouent de la musique. Exactement.
C'est ça qui vous a attiré dans ce quartier ? Vous êtes parisien ?
Moi, je suis parisien d'origine. Je suis du 18e. J'ai grandi dans le quartier des Abbesses, qui, paradoxalement, c'est vraiment le quartier des comédiens. Et en fait, il y a un moment, j'en ai eu marre d'avoir des pentes. C'est-à-dire que quand on est aux Abbesses, dès qu'on sort de chez soi, on monte, on descend.
C'est la butte de Montmartre.
C'est une butte, exactement. Quand je suis arrivé dans le 19e et que j'ai vu tout ce plat, je me suis dit, je suis à la maison. Et
c'est drôle, on veut toujours quelque chose qu'on n'a pas.
Bien sûr.
C'est un peu d'ailleurs ce que raconte votre roman. Pourquoi est-ce qu'on voyage ?
C'est très juste, très bon sens de la propos. Oui, parce que justement, dans le roman, il n'arrête pas de dire l'essentiel, c'est pas l'arrivée, c'est de continuer à se poser des questions, c'est de continuer à avancer, c'est de continuer à être curieux et donc de voyager.
Mais en même temps, c'est vrai, pourquoi voyage-t-on ? Pourquoi depuis toujours l'homme s'est déplacé ?
Moi, j'ai mis 640 pages pour répondre à la question. Mais justement, c'est ce dont on parle. C'est vrai, pourquoi quoi ? Pourquoi on est parti ? Il y a plein de raisons, je pense.
Mais vous, j'ai l'impression que ce roman, c'est un hymne aux voyages, mais c'est aussi un hymne aux migrants.
Ouais.
Qui sont pourtant pas très populaires dans notre pays.
Bah oui, c'est vrai, parce que je commence en parlant de ça, en disant mais à partir du moment où quelqu'un a décrété que ce sol appartenait à un plus qu'à un autre, déjà ça a commencé à partir en vrille, quoi.
Et pour vous, ça n'est pas le cas? C'est ce que a l'air de dire votre calcul là, qui fait qu'on est tous cousins.
Et ah oui.
On sait tous derrière entre eux, c'est qu'au fond, on a tous le même sang.
Bah oui.
Et on a tous le même sol.
On a tous le même sol, on a tous le même sang, on est tous citoyens du monde. En tout cas, on devrait l'être. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Et la seule chose qui peut nous faire prendre conscience de ça, c'est de voyager, c'est de passer d'un pays à l'autre, c'est de rencontrer d'autres cultures.
Justement, c'est plus on voyage, plus on sait qu'en dépit de la mondialisation et de l'uniformisation qui en résulte. Le monde est quand même très très différent, non ?
Bien sûr, mais moi je pense que dans chaque culture...
Regardez, vous faites une différence déjà entre le 18e et le 19e.
Oui, c'est vrai.
Arrondissement.
C'est vrai. Pas de problème, je peux aller au bout du monde, mais alors passer rive gauche, hors de question, quoi. Là, on ça, c'est le côté parisien.
On arrive sur le quai de la Seine, devant le bassin de la Villette, donc il y a des bateaux.
Un petit port de plaisance.
On se croirait vraiment dans un port, hein.
Bah oui, et puis on se croirait pas trop à Paris. C'est ça aussi que j'aime ici. Les vrais Parisiens en général, au bout d'un moment, ils veulent Paris, mais sans que ce soit Paris. Et ben ce quartier-là, c'est exactement ça. C'est un peu berlinois. C'est un peu. Il y a des immeubles modernes. Il y a un petit port de plaisance. Il y a des bistrots au bord de l'eau.
Europe 1, en balade avec Alexis Michalik. Frédéric Tadéhi.
Et donc là, on arrive au Bastringue, qui est un peu mon café, mon bistrot où je vais depuis 12 ans.
Qui est juste en face des bateaux, donc vous avez l'impression que vous pourriez être à Saint-Malo ou à Cassis. Là.
Exactement. Bon, alors dès qu'il y a un rayon de soleil, la terrasse est prise d'assaut.
Il y a une belle terrasse, on peut s'asseoir.
Ouais, ça c'est le Bel Rive, ça c'est le Bastringue. Alors est-ce qu'on va réussir à avoir de la place en terrasse? Oh, bah j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir de la chance.
Mais si vous êtes un habitué et en plus vous êtes connu, est-ce qu'ils chassent les gens quand vous arrivez?
Est-ce que quoi?
Est-ce qu'ils chassent les gens quand vous arrivez?
J'aimerais bien, non, pas du tout. Absolument pas, j'attends mon tour comme tout le monde.
On s'assoit à la terrasse du Bastringue, on va commander.
Qu'est-ce que vous allez prendre, vous?
Je sais pas, je vais y réfléchir pendant la pause.
Europe 1, en balade avec Alexis Michalik. Frédéric Tadéhi et Alexis Michalik ont décidé de s'asseoir, boire un verre au bistrot Le Bastringue pour un petit dépaysement et surtout continuer à en apprendre plus sur le scénariste.
Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir... Qu'est-ce que vous voulez?
Moi, je veux bien un thé à la menthe sans sucre.
Et pour moi, une mauresque.
Ah oui.
Ouais.
C'est le sud.
C'est le sud, il fait beau. Il y a l'eau, donc autant boire de la mauresque.
Bien sûr. Et une mauresque, rappelez-moi, c'est quoi? C'est pastis, c'est...
Et sirop d'orgeat.
Ah, sirop d'orgeat, ça. C'est très avignonnais, ça. Quand on est au Festival d'Avignon, on boit soit du pacalo, soit de la mauresque.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, Alexis Michalik? Vous avez pu vous contenter de jouer?
Oui, c'est vrai, mais je crois que j'ai écrit avant de jouer. Moi, j'écrivais quand j'étais ado. Je pense que tout le monde, je ne sais pas ce que
écrit quand il est ado.
Ouais. Enfin, tout le monde écrit quand il est malheureux, à mon avis.
Ah, c'est pour ça ?
Je pense qu'il y a toujours une faille qui crée l'envie d'écrire. Écrire, c'est exprimer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer si tout va bien ? Si tout va bien, on a juste envie de sortir et d'aller boire des coups et de faire la fête. En revanche, la moindre fêlure, bah là, on se dit, qu'est-ce que je peux en faire ? Et si j'en faisais quelque chose où je transmets cette tristesse, cette
souffrance ? Mais la plupart des gens se contentent d'écrire le bien-aimé.
Oui, c'est vrai, non, mais c'est pas forcément un chagrin d'amour. Moi, je pense qu'ado, j'avais des boutons, j'étais mal dans ma peau. Voilà, j'étais dans un mal-être. Tout relatif, hein, comparé à bien d'autres traumatismes d'autres personnes. Mais ça m'a donné un peu l'envie de mettre des choses sur papier. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ma vie allait de mieux en mieux et qu'il y avait de moins en moins de choses intéressantes à raconter.
Vous n'avez plus de boutons, en plus?
Non, j'avais plus de boutons.
Vous avez dit vous-même, d'ailleurs, que vous n'aviez pas l'air intelligent. Vous aviez une tête de surfeur, pas d'intellectuel.
Oui. Bah, c'est vrai. Moi,
il y a des surfeurs intellectuels, cela dit.
C'est vrai. J'espère que c'est le cas. Non, mais oui, je dis ça parce que parfois mes amis, en lisant mon roman ou des écrits, en venant voir le porteur d'histoire, me disent « mais je pensais pas que t'étais intelligent ». Je pensais pas que tu avais des choses à raconter, en fait, parce que quand on discute, ben, en fait, on joue au tarot.
Et personne ne vous a dit, après avoir lu vos livres, je pensais pas que tu étais beau. et d'être agréablement surpris. Vous êtes pas mal.
Ah, c'est gentil, merci, je vous remercie.
Mais c'est ce que tout le monde dit, d'ailleurs, dans tous les articles qui vous sont consacrés, il y a toujours un moment où on dit il est blond, il est les yeux bleus, il est carré, il est de la barbe.
Mais je pense que je ne correspond pas à l'image qu'on se fait de quelqu'un qui fait du théâtre.
Non, qui écrit des pièces de théâtre,
qui écrit des pièces de théâtre, qui les met en scène. Faudrait que j'ai 30 ans de plus, quelques kilos, un peu moins de cheveux, et là, ce serait d'accord. Bah oui, il fit le profil, quoi.
D'ailleurs, vous êtes hâté de faire du cinéma et d'écrire un roman.
Oui, bien sûr. Je fuyais cette image. Non, mais au contraire, moi, je trouve ça génial de faire du théâtre. Mais c'est ce que je disais. Moi, j'ai l'impression que tout le monde dans les facs, enfin, tous mes potes, en tout cas, voulaient être réalisateurs. Parce que c'était classe d'être réalisateur.
Et puis, c'est là où il y a des jolies filles.
Il y a des jolies filles, et puis on a des actrices et tout ça. Alors que metteur en scène de théâtre, c'est vraiment un truc de vieux. Et donc, on n'était pas très nombreux, nous, les jeunes de ma génération. On se connaît tous, on est 5, 10, les metteurs en scène de ma génération, les auteurs de ma génération. On se connaît, c'est un petit milieu, en fait. Vous voyez, donc il y a plus de place. On peut éventuellement faire des choses et gagner notre vie avec. Ça se tient. Je pense que j'étais déjà vieux quand j'étais jeune. J'avais un truc vraiment... À 18 ans, j'étais sur un Roméo et Juliette avec mise en scène par Irina Brooke.
Ben oui, encore une question de physique.
Oui,
si
voilà,
on vous a donné le rôle de Roméo, c'était pas par hasard.
C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'aurais préféré faire Mercutio, hein, parce que c'est un meilleur rôle. Hein.
Mais c'est bon. Ce que disent aussi toutes les jolies femmes qui ont donné le rôle de jeune première. Elles disent, mais moi, j'aurais préféré jouer.
La comédie, bah ouais. Mais donc, j'ai réussi à le faire ensuite en me mettant en scène moi-même. Mais en tout cas, à l'époque, je traînais plus avec les acteurs plus âgés qu'avec les jeunes. J'avais un truc déjà de... J'étais déjà vieux, quoi. Et là, je commence à peu près à atteindre l'âge normal.
36 ans ?
Ouais, dans ma tête, j'ai un peu 40 ans, donc ça va. Je rattrape.
36 ans, c'est un bel âge
pour vous ? 36 ans, c'est un... Bah, je pense que n'importe quel âge est un bel âge si on est heureux, en fait.
Ouais.
Moi, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus jeune qu'à 24 ans. À 24 ans, je me souviens que j'avais fait une crise d'angoisse terrible sur l'âge, le temps qui passe. Je me disais, oh mon Dieu, je suis en train de perdre mes cheveux, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai 24 ans, j'ai rien fait de ma vie. Aujourd'hui, à 36 ans, je suis très, très serein et je me sens très jeune.
Mais vous étiez très jeune dans le milieu du théâtre. Vous avez eu des prix, des récompenses, des succès pour vos pièces à un âge où normalement, c'est vrai.
Oui, mais c'est marrant parce que un autre très, très connu, c'est Edmond Rostand qui a écrit Cyrano à 29 ans. Donc j'étais d'autant plus proche de lui.
Mais lui avait fait plein de bides avant de faire
fait des bides, c'est vrai,
Cyrano.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il en a fait un gros succès quand même. Je veux dire, moi je veux bien faire 10 ans de bides si c'est pour faire Cyrano. Hein.
Ouais. Vous êtes sûr ?
Ah ouais, bah Cyrano, qui ne voudrait pas avoir fait Cyrano ? C'est quand même la pièce.
Oui, c'est la pièce, mais au fond, c'est bon pour la postérité.
Non, je pense qu'il en a vraiment bien profité. Hein.
Oui.
Quand il a commencé, il a fait Cyrano à 29 ans, pas à 60,
oui,
hein,
vrai,
ça
ouais.
va.
Ouais.
Il était bien, mais bon, ouais, c'est le personnage d'avant qui m'intéressait.
Mais au fond, d'Edmond Rostand, on se souvient que de Cyrano.
Bien sûr, évidemment. Mais déjà, je trouve ça merveilleux qu'on se souvienne de quelque chose. Et puis, moi personnellement, je ne travaille pas pour qu'on se souvienne de mes œuvres. Hein. Moi, je suis très ancré dans le présent.
Vous voulez en jouir tout de suite ?
Oui, absolument. Bah, évidemment, au moins à moitié, quoi. Non, bien sûr.
Qu'est-ce que ça s'appelle, en jouir à moitié ?
Bah, c'est-à-dire qu'il faut faire une part des choses entre le travail qu'on met et miser un peu sur l'avenir et puis profiter aussi de l'instant présent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une moitié de la vie qui est consacrée à continuer à construire et à continuer à retourner au boulot et à avoir de la discipline. Et puis une partie où on ne doit pas laisser non plus de côté la relâche et la détente et les vacances. Et ça, c'est quelque chose que moi, il y a quelques années, j'en avais pas conscience. Et puis il y a 5 ans à peu près, j'ai fait un burn-out.
Ah, vraiment, un vrai burn-out.
Ou
il y a des auteurs de théâtre qui font des burn-out. On croit que c'est réservé aux gens dans les entreprises.
Oui, c'est vrai. Non, pas du tout. Moi, je l'ai eu en pleine poire. Vraiment, à plus pouvoir rester dans un endroit avec du bruit, à plus pouvoir m'alimenter. Enfin, c'était vraiment, mais comme une maladie, quoi. Un truc qui m'est tombé dessus. Et puis derrière, je me suis dit, bon, en fait, peut-être que mon corps me dit quelque chose. Peut-être qu'il faut que je prenne des vacances de temps en temps. Et donc maintenant, bah, je me force à prendre des vacances. Et en fait, quand je suis en vacances, j'écris mieux. Parce que mon esprit, il est aéré, comme on parlait tout à l'heure, de ne pas écrire chez soi. Voilà.
Et là, vous avez 4 pièces à l'affiche, des pièces qui datent un peu, qui continuent tous les soirs. d'alimenter votre... Ouais.
votre... C'était pas prévu, hein. C'était pas quelque chose que j'avais anticipé, hein, d'avoir quatre pièces à l'affiche. J'en ai fait une, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et puis bon, il se trouve qu'elles sont, elles sont encore là, quoi. Et le roman arrive. Et le roman, bah, c'est un exemple même de cette moitié de discipline, parce que alors que j'étais encore en train de faire des spectacles, je me disais, non mais ce serait bien d'aller au bout de ce truc. Donc ça m'a pris quelques années, mais le sentiment, le plaisir, la satisfaction de terminer quelque chose, elle est hors du commun, quoi. C'est vraiment un plaisir a posteriori, l'écriture.
Mais là, il est temps de débuter quelque chose de nouveau aussi.
Ouais, vous croyez ?
Vous avez commencé ?
Oui, c'est peut-être en projet. Je ne m'arrête jamais vraiment, mais...
Une nouvelle pièce ?
Ouais, peut-être, peut-être. Peut-être, une nouvelle pièce, un nouveau film, quelque chose d'autre. On verra.
On verra. Eh bien, puisqu'on est au soleil, qu'il fait chaud, je vous propose d'écouter Cuando Caliente El Sol.
Mais... Avec plaisir.
Une de mes chansons préférées des années 60, mais là, c'est la version de Taliaferro.
When the sun is warm here on the beach, I feel you near me. It's your face, your hair, they're your kisses. I begin to
Taliaferro qui nous chantait Cuando Caliente El Sol. On se retrouve tout de suite avec Alexis Michalik à la terrasse du Bastring.
C'est toujours dans le 19e arrondissement de Paris qu'on retrouve Frédéric Taddeï et Alexis Michalik, profitant du soleil ce dimanche, et ne sont pas les seuls.
Nous sommes à la terrasse du Bastring avec Alexis Michalik et on a été rejoint par Aïda Asgharzadeh. Est-ce que je l'ai bien prononcé ?
Impeccablement.
Bonjour Aïda.
Bonjour.
Vous êtes très amis tous les deux ?
Oui, on peut dire qu'on est même meilleurs amis.
Meilleurs amis ?
Oui. On utilise encore ce terme.
Vous habitez dans le quartier, vous aussi ?
Tout à fait. Depuis pas très très longtemps, depuis quelques mois. Mais j'avais très très envie de me rapprocher de ce petit village du 19e.
Alors lui, il nous expliquait qu'il était à la fois... il avait une grand-mère australienne, un grand-père polonais, une mère anglaise. Vous venez d'où, vous ?
Moi, je suis iranienne. Hein. Mais ouais, pour le coup, c'est vraiment 100% Iran.
Et ça remonte très très loin ?
Ouais, plutôt assez loin. J'aimerais bien faire un test là pour voir un petit peu s'il y a des mélanges, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de surprises.
Il a une théorie sur les noms de famille... Il vous l'a raconté, c'est dans son dernier roman, qu'au fond, c'est l'instinct de propriété qui nous a obligés à prendre des noms de famille, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, ouais. C'est qu'il y a un moment, il fallait différencier les gens, et donc on s'est dit, bon, bah, c'est quoi ? Ça vient d'où, Taddeï, par exemple, vous savez, vous ?
Oui, c'est. Moi, je pense. C'est toscan. Ouais. Il y a une Via Thaddeus, une via antique. Et puis, je pense que ça vient de Thaddée, le copain de Jésus.
Oui, voilà. Donc, on est dans une explication religieuse. Moi, je pense que Michalik, c'est, ça vient, à mon avis, de Mikhailovitch, fils de Mikhail ou fils de Michel. Quoi. En tout cas, c'est polonais, mais ça doit être dans ce sens-là. Asgardzadeh, ça veut dire quoi ?
Eh ben, c'est un peu pareil, en fait. Zadeh, c'est la descendance d'eux, donc c'est la descendance d'Asgard.
Voilà, donc on est tous le fils de quelqu'un, et dans le roman, bah, ils cherchent leur père, Charles.
Mais ce serait quoi, ce besoin de propriété, ce besoin de posséder, y compris un nom de famille ?
Je pense qu'il y a un moment, quand même, c'est plus pratique pour l'administration. Ce que j'explique, c'est qu'on a tellement besoin d'exister aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a plus de, il y a plus de surprises, en fait. On a déjà exploré toute la planète. Il y a plus de territoire inconnu. On sait qu'a priori la Terre n'est pas plate. On sait qu'on est capable d'expliquer tout ça. Donc, qu'est-ce qui nous reste, nous? Il nous reste à simplement proclamer une identité, à avoir une histoire, à se dire, mais non, j'appartiens à ça parce que sinon je n'existe pas.
Si je n'ai pas de nom. D'où l'obsession de la généalogie.
Exactement. Et en ce moment, c'est vraiment ça. Ouais. Moi, je trouve ça génial, le test ADN. Là, j'adore.
Ah oui.
Je trouve ça brillant, quoi.
Pour savoir où étaient vos ancêtres.
Voilà, ouais, pour le confirmer en tout cas. Moi, je l'ai fait récemment, je me suis rendu compte que j'avais du sang viking, scandinave, quoi.
Et d'où la blondeur.
D'où la blondeur. C'est ça, mon père m'a dit, bah oui, tu sais, Stanus, c'était le nom de ta grand-mère, et Stanus, ben, c'est les vikings, donc voilà. Donc je dis, ah super.
Europe 1, 11h30, en balade avec Alexis Michalik. Frédéric Taddeï.
Aïda, vous êtes auteur et comédienne de théâtre. Vous préférez qu'on dise auteur ou autrice ?
Auteur avec un E, ça me va très bien.
Ça va. C'est autrice, je trouve, ça fait, on dirait,
habituée.
Une maladie.
C'est un peu étrange, je suis pas habituée.
Et vous êtes rencontrés comment, tous les deux ?
Je pense que c'est à Avignon, peut-être ?
Ouais, on s'est rencontrés à Avignon. On est, à l'époque, Aïda, elle s'occupait de la diffusion d'un de mes spectacles. Un Roméo et Juliette, et comme on a eu la chance d'avoir du monde, on n'avait pas besoin de tracter cette année-là, et donc on avait beaucoup de temps libre, et donc on a passé beaucoup de temps à boire des coups, et puis de fil en aiguille on est devenu très potes, et on est parti en vacances, et on a fait le GR20, vous voyez ce que c'est le GR20?
Oui, c'est une escalade un peu compliquée.
Escalade, c'est un gros mot, c'est une randonnée, on va dire, c'est
de la
grande randonnée.
Ah bon, moi je pensais que c'était assez...
Non, c'est 15 jours de...
Ouais,
exactement.
Ah oui. Et je crois que c'était un sommet, le GR20, alors je confonds avec quelque chose.
Ah oui, non, vous confondez avec le G20, c'est un sommet où il y a des gens un peu connus, des dirigeants qui se rencontrent. Non, et donc on est devenu, et on a fait 15 jours de randonnée, et je pense qu'après ça, il n'y a plus de barrière d'intimité qui existe, donc on est devenu très potes, et puis suite à ça, elle s'est mise à écrire, et puis elle a commencé à faire des spectacles de plus en plus, et maintenant, on écrit, on passe nos vacances ensemble, on est un bon groupe d'amis, et la plupart écrivent, mettent en scène, et donc on se fait lire nos trucs, c'est un peu résidence d'écrivain, quoi.
Vous pensez que c'est une période riche pour le théâtre en France aujourd'hui ?
C'est difficile de juger d'une période. En tout cas, moi je pense qu'on a beaucoup de chance en France parce que c'est un des théâtres, on va dire, mondiaux ou en Europe où on a le plus de diversité dans la création. Je veux dire que moi, je suis pour la coexistence de tous les théâtres. Et on a la chance en France de pouvoir vivre de ce métier-là et d'avoir un système qui fonctionne, des acteurs qui peuvent en vivre. Et on se bat pour que ça reste. Hein. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là.
Non,
je veux dire, mais même dans des pays développés, quand on va au Japon, les acteurs, ils font d'autres métiers parce qu'on ne peut pas être acteur de théâtre et en vivre. Quoi. En France, on peut avoir... Il y a plein de types de théâtre. Il y a du théâtre subventionné, il y a un théâtre privé très fort, il y a un théâtre de très tôt, il y a un tas de troupes, il y a un festival d'Avignon qui est extrêmement, extrêmement vivant. Enfin, il y a une économie théâtrale qui est possible et il y a un public en plus. Je pense qu'en tout cas, on a de la chance à ce niveau-là. Après, il y a toujours moyen de faire mieux.
Vous faites quoi en ce moment, Aïda ?
Bien, en ce moment, je viens d'achever ma prochaine pièce que j'ai écrite et dans laquelle je vais jouer, que Régis va mettre en scène. Je crois que vous avez...
Régis Vallée ?
Régis Vallée.
De vos amis.
Ouais. Oui, tout à fait. On est très amis.
Donc on va bientôt commencer la répète de ce spectacle qui s'appelle Les poupées persanes.
Tiens donc.
Ouais, là j'ose aller vers mes origines.
Ah oui, pourquoi vous n'osiez pas jusque-là ?
Non, jusque-là je tournais un peu autour du pot, j'en parlais sans vraiment en parler, et puis là c'est un peu plus frontal.
Et ça va jouer dans quel théâtre ?
Pour l'instant on va faire la création au théâtre de Montaigu, près de Nantes, le 25 avril, et après on sera au Bélier à Avignon.
On se retrouve dans un instant avec Alexis Michalik, on va continuer notre balade.
Europe 1. En balade avec Alexis Michalik.
De 11h à 12h30, Frédéric Taddeï est en balade avec Alexis Michalik qui lui fait découvrir son quartier près de la Villette. et près du canal de l'Ourcq, ce qui est très important pour ce franco-britannique.
Nous sommes avec Alexis Michalik, l'auteur d'Edmond, du Porteur d'Histoire, du Cercle des Illusionnistes, qui publie son premier roman, Loin.
Chez Albin Michel.
Chez Albin Michel, et qui nous fait visiter son quartier.
Bon, là, il y a un peu des voitures, c'est normal, c'est la rue de Crimée, ça passe. Voilà. Mais vous allez voir, on va traverser.
Et c'est le pont à notre droite, c'est le pont de la rue de Crimée, qui est le dernier pont levant de Paris.
Exactement, vous êtes bien renseigné.
Ces tabliers s'élèvent quand une péniche veut entrer dans le bassin de la Villette. Nous voilà maintenant sur le quai de l'Oise. On longe le canal de l'Ourcq.
Ouais.
Vous avez de la chance d'habiter dans cette partie de Paris.
J'aime beaucoup. Moi, je suis extrêmement bien ici. Depuis que j'ai découvert cet endroit, je ne veux plus le quitter. Un canal, ça aère, en fait. Parce qu'un canal, il n'y a pas de voiture. Il y a de l'espace, il y a de l'air. Donc l'été, il fait moins chaud. Et puis l'hiver, il n'y a pas de la pollution qui stagne, quoi.
Là, on passe devant une sorte de bateau, bus, péniche, restaurant.
Il y a plusieurs péniches.
La grande fantaisie.
Voilà, ils font des spectacles, ils font des concerts, on peut manger.
Au fond, vous n'êtes pas obligé de sortir de votre quartier pour sortir le soir.
Ah bah non, pas du tout. Mais d'ailleurs, je ne sors pas de mon quartier.
C'est vrai ?
Bah oui, les gens viennent à moi, c'est beaucoup mieux. Hein.
Là, on arrive à la passerelle des Ardennes qui enjambe le canal de l'Ourcq. C'est un pont en acier fait avec des poutres à treillis multiples.
Ouais.
Il est ouvert.
Et juste à côté, vous voyez, il y a le cours Florent qui s'est installé là. Une antenne du cours Florent.
Le cours Florent Musique.
Cette multinationale qu'est le cours Florent.
Le cours Florent, donc, qui a formé quantité d'acteurs.
Mais pas moi.
Pas vous, non. Vous, c'était le conservatoire.
Moi, c'était un conservatoire d'arrondissement dans le 19e. Mon professeur, c'était Michel Armin. Et puis, mais j'y suis pas resté très, très longtemps, puisque j'ai commencé à jouer à 18 ans et à monter des spectacles peu de temps après. Mais c'était quand même très sympa, puisque c'est là-bas que Michel m'a permis de monter mon premier spectacle. Quand je lui ai dit, j'aimerais bien monter un spectacle, il m'a dit, monte-le ici, mais juste prends des élèves du cours. Et donc, il y a plusieurs comédiens que j'ai rencontrés là-bas qui jouent encore dans mes spectacles aujourd'hui.
Vous parlez dans votre roman, dans Loin, de ce besoin que nous avons de voyager, qui s'est transmis de génération en génération. Mais vous y ajoutez aussi le besoin de se battre. Or, c'est vrai qu'on s'est beaucoup battu dans l'histoire, notamment en voyageant, puisqu'on c'était des histoires de conquête, de colonisation, de guerre, évidemment. Aujourd'hui, on voyage de plus en plus et on se bat de moins en moins, non ?
Oui, vous pensez qu'on se bat de moins en moins ?
Ah bah oui,
ouais, c'est
en
vrai,
tout cas,
c'est
les
vrai.
Gars font les beaucoup, sûrs, beaucoup moins de morts qu'avant,
oui,
et les
vrai.
Russes sont beaucoup plus sûrs qu'on ne le croit.
C'est vrai, je suis d'accord. Et j'ose espérer que ça va continuer dans ce sens-là, en tout cas.
Mais c'est vrai, on a une fausse impression, parce qu'on regarde la télévision, et à la télévision, il y a à peu près, je crois, toutes les 50 personnes qu'on voit à la télévision, il y a un mort.
Mais c'est normal.
Mais
parce
en réalité, dans la vie, c'est pas du tout comme ça. Il y a beaucoup moins de meurtres qu'autrefois, y compris évidemment dans tous les pays occidentaux.
Sûr. Mais ça, c'est la presse. Hein. La presse, si jamais il rapporte que des bonnes nouvelles, ça ne se vend pas. C'est vrai, je me souviens, il y avait eu un bulletin qui a été célèbre parce qu'il ne s'est rien passé ce jour-là. Mais c'est dans les années 30, un bulletin radio où il n'y avait pas de bulletin. Il ne s'était rien passé.
Moi, je me souviens, en mai 90, il y a eu la paix dans le monde et personne ne l'a remarqué.
C'est vrai ?
Ouais, je vous jure.
C'est un moment où il y avait la paix partout.
Il y a la police montée, la garde républicaine.
Ouais, les chevaux.
Les gendarmes. Je me souviens, j'avais fait un journal, c'était mon premier journal. Et j'avais montré que c'était la paix dans le monde. Oui, il y avait quelques conflits encore ici ou là, mais enfin, en gros,
personne n'en a parlé parce que
personne
ça n'intéresse personne de savoir qu'il y a la paix dans le monde.
Mais surtout, personne ne l'a remarqué.
Ah ouais. Et là, on passe devant les Bancs Publics, qui est mon deuxième café de prédilection, voilà, pour ceux qui cherchent un café dans le 19e ou un restaurant.
Et tandis qu'on approche d'un ancien pont de la Petite Ceinture, c'était le petit train qui faisait le tour de Paris. Il y a d'ailleurs des vélos accrochés sur ce pont en acier. Écoutons La plage chantée par Yolande Dalisi. Ça ressemble à une plage ici, non ?
Oui, et il me semble même que le bistrot d'à côté s'appelle La plage.
Quand sur la plage tous les plaisirs de l'été, avec leur joie, venaient à moi de tous côtés. L'amour ferait l'éternité à cette image de la plage ensoleillée. Dommage, mais les amours de l'été bientôt souvent craignent les vents en liberté. Mon cœur cherchant sa vérité vient faire naufrage sur la plage déserté. Le sable et l'océan, tout est en place. De tous nos jeux pourtant, je perds la trace. Le soleil revient déjà. Passe le temps, le cœur content reprend ses droits. L'horizon s'offre pour moi, mieux qu'un mirage, une plage.
C'était La Plage, chantée par Yolanda Lisi. On vient de voir un scooter qui a dû être remonté du fin fond du canal. Il est couvert de vases.
Il est encore vaseux, ouais.
Et c'est quelqu'un peut-être qui a voulu toucher l'assurance. On se retrouve tout de suite avec Alexis Michalik.
Une heure et demie, Frédéric Taddeï est avec Alexis Michalik, qui en plus d'être acteur, metteur en scène et scénariste, vient aussi de devenir auteur avec la sortie de son premier roman Loin, l'occasion d'en apprendre plus sur cet homme aux multiples talents.
Nous sommes avec Alexis Michalik dans ce coin de la Villette à Paris. Il y a beaucoup de canaux, il y a la Cité des sciences et de l'industrie.
Les folies. Et au loin, on aperçoit les moulins de Pantin qui ont été reconvertis, qui maintenant appartiennent à la BNP. Je crois que c'est le siège de la BNP.
Voilà, on a l'impression vraiment que ici les gens sont tous en vacances.
C'est vrai. On est à Amsterdam un peu, on a des vélos qui passent.
Vous-même, vous avez bonne mine ?
Oui, moi je prends souvent des vacances.
C'est vrai, c'est le seul moyen, d'après ce que vous nous avez dit, que vous avez trouvé pour travailler. Vous êtes un passionné d'histoire, d'ailleurs vous avez toujours été pioché dans l'histoire pour alimenter vos pièces. Aujourd'hui votre roman, il nous fait revenir sur les deux premières guerres mondiales quasiment.
Ouais.
Hein.
Ouais,
et
absolument.
Parfois vous remontez beaucoup plus loin encore.
Oui, hein. Ouais.
Moi je vois ça comme des abscisses et des ordonnées, l'histoire et la géographie. L'histoire, ouais. Ça nous permet de comparer par rapport à ce qui se passait avant, et si on ne sait pas ce qui se passait avant, on a du mal à comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
Exact.
Et puis la géographie, ça nous permet là aussi de relativiser. C'est en regardant ce qui se passe ailleurs au même moment, évidemment, on comprend mieux ce qui se passe chez nous.
Ben, je ne sais pas quoi ajouter, vous avez tout dit. Vous avez dit exactement ce que je pense. Clairement, moi, l'histoire, ça me permet de comprendre le présent, hein. De me plonger dans les passés, me permet de me rendre compte que tout ce qu'on vit aujourd'hui, toutes les problématiques, l'origine des guerres, l'origine des conflits, l'origine des problèmes, en fait, tout a été vécu dans d'autres cultures, dans d'autres moments, dans d'autres générations. Et à partir du moment où on comprend que ça a été vécu, c'est plus facile soit de l'accepter, soit d'en trouver une solution. De le relativiser.
De le relativiser, parce que c'est pas pour autant qu'on l'accepte.
Non.
Mais là, on est sur le quai de la Gironde, alors on passe devant la piscine Rouvée, devant les bains-douches.
Oui, c'est une vieille piscine, cette piscine Rouvée, elle a la particularité de faire 33 mètres de long.
Mais à quoi ça sert aujourd'hui les bains-douches ? Est-ce que ça fonctionne encore ?
Ça fonctionne encore, oui.
Dans Paris, personne n'avait de salle de bain, mais aujourd'hui...
Bah, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de salle de bain et qui continuent à venir prendre des douches ici, aux bains-douches, des sans domicile fixe, des gens un peu dans le besoin, et on les croise quand on va à la piscine Rouvée.
Nous voilà dans la rue Rouvée. C'est une rue que vous fréquentez souvent
en fait, j'ai habité là pendant 11 ans, donc pas très loin de là où j'habite maintenant. Je suis resté dans mon quartier et puis j'y suis arrivé un peu par accident. Et donc j'ai trouvé ce coin-là super et je suis resté. Et finalement, quand il a fallu quitter mon appart, à regret, bah pour pas le perdre complètement, je l'ai vendu à mon meilleur pote.
C'est vrai ?
Ouais,
Régis. Et il y habite toujours ?
J'espère, en tout cas.
Ah, mais c'est lui qu'on va voir.
Absolument.
C'est Régis Vallée, le metteur en scène. Non, il est acteur.
Il est acteur et metteur en scène.
Europe 1, 11h30, en balade avec Alexis Michalik. Frédéric Tadéhi.
Et alors, votre passion pour l'histoire, elle a commencé quand et où ?
Je sais pas. Franchement,
Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'histoire ? C'est un truc bizarre.
Bah ouais, c'est vrai. Hein. Mais je sais pas, j'ai trouvé des réponses dans l'histoire, on va dire. C'est une source inépuisable, en fait, de matériaux scénaristiques, l'histoire. Plus on se renseigne, plus on apprend que chaque roi, mais même chaque période a des histoires invraisemblables à raconter et des histoires que personne ne connaît.
Vous êtes comme Alexandre Dumas qui a fait une grande partie de sa carrière littéraire là-dessus.
Ah bah j'apprécie la référence, évidemment. Alexandre Dumas, c'est un modèle.
Moi, il était dans l'une de vos pièces d'ailleurs.
Ouais, dans Le Porteur d'Histoire, il y a toujours des petites références à Dumas. Bah oui, c'est un raconteur d'histoire. Ce que j'aime avec Dumas, c'est il y avait cette phrase, il disait, moi, écoutez, si j'ai violé l'histoire, moi, je lui ai fait des beaux enfants. Et c'est quelqu'un qui a traversé toute l'histoire de France. C'était un bouffeur de vie, infatigable, un écrivain sans relâche. Et il n'a pas la même aura qu'avait Victor Hugo, qui est l'autre nom le plus connu de cette époque-là, on va dire. Mais par contre, c'est un vrai raconteur d'histoire. C'est un Spielberg de l'époque, quoi. C'est quelqu'un qui emmenait des dizaines et des dizaines de milliers de gens dans ses histoires. Et ça, je trouve ça génial.
C'est ce que vous voudriez être, au fond.
Évidemment, bien sûr. Bah, beaucoup plus que... Je sais que je ne révolutionnerai pas la littérature. En revanche...
Et le théâtre ?
Non, pas du tout. En revanche, je peux essayer de raconter des belles histoires.
Vous lui avez fait... vous l'avez un peu violé, l'histoire. Dans Edmond, par exemple, vous faites un sort à Edmond, la femme d'Edmond Rostand.
Absolument. À Rosemonde.
Rosemonde, pardon. Puisque vous lui inventez une muse, une maîtresse... aurait inspiré Cyrano de Bergerac, alors que c'était sa femme, la pauvre.
C'était sa femme, la muse, la brillante, celle qui l'aidait tout le temps. Oui, mais comme j'ai fait ce que Edmond a fait avec Cyrano, parce que le vrai Cyrano...
Et ce qu'Alexandre Dumas a fait très souvent
aussi. A fait plein de gens, mais le vrai Cyrano de Bergerac, il a pas du tout la vie qu'on découvre dans la pièce. Il était pas du tout amoureux de sa cousine, il a pas du tout cet héroïsme-là. Donc, quel meilleur hommage de faire à Edmond Rostand que de lui donner le traitement qu'il a donné à Cyrano de Bergerac.
Oui, mais je me dis, la pauvre Rosemonde, c'était une grande poétesse, a sûrement beaucoup aidé Rostand, elle l'a inspiré parce qu'il l'adorait,
et je lui rends pas hommage.
Vous lui collez une maîtresse, en fait, une femme trompée, la pauvre.
Mais ça, c'est un besoin scénaristique. Il faut que mon personnage, au début de l'histoire, il soit désœuvré. Il faut qu'il ait un manque d'inspiration, et s'il a déjà son inspiration, si tout va bien, C'est pas intéressant. Il faut mettre un héros dans une situation où il a besoin de quelque chose pour trouver la voie.
Au fond, pour être un auteur, faut être sans scrupules.
Ah ouais, ça c'est sûr. Vraiment. Il faut être un peu dérangé.
C'est pour ça qu'il y a tellement d'écrivains aujourd'hui qui racontent leur vie, qui racontent la vie de leurs proches, qui donnent les noms.
Ah oui, non, ça c'est pas moi.
Non, vous n'allez pas jusque là, vous.
Non, bah puis Rostand, il a les descendants, il y en a plus, hein, c'est fini. Mais vous savez, quand Shakespeare écrit Richard III. Et qu'il parle de Richard III et qu'il en fait un monstre absolu. On sait aujourd'hui que Richard III, ça n'est pas le monstre absolu que Shakespeare décrit. Seulement, dans le contexte politique où Shakespeare l'écrit, il parle d'un personnage qui a vécu un siècle et demi auparavant. Et il se trouve que ceux qui sont au pouvoir à ce moment-là, c'est les ennemis de Richard III. Donc, il va dans le sens de ceux qui sont au pouvoir en noircissant ce personnage. Vous voyez ? Moi, en fait, quand j'écris Edmond Rostand, j'ai à peu près la même distance entre moi et Edmond Rostand que Shakespeare avec Richard III.
Et en fait, vous cédez à l'air du temps, quoi. C'est ça que vous êtes en train de me
Comment
dire.
L'air du temps
Si l'air du temps est contre Richard III, soyons contre Richard III.
Je ne pense pas que l'air du temps est contre Rosemonde. Au contraire, je vais contre ça. Je sais très bien que je vais me prendre des gens qui vont me dire « Mais oui, mais bon, la pauvre Rosemonde. » Mais je vais dire « Oui, mais c'est une fiction. » Écoutez, c'est comme Cyrano où Rostand en fait un hétérosexuel fier et amoureux de sa cousine, alors qu'a priori, il était plutôt amant de Le Bray et de ses potes de l'époque. Bon, bah voilà, l'air du temps dirait « Comment on peut faire ça ? Comment on peut prendre une icône gay et en rendre la rendre hétéro ?»
Oui, d'ailleurs, en le révélant aujourd'hui, vous allez avoir des ennuis.
Pourquoi ? Mais non,
il y en a
tout.
Qui vont vous dire, voilà.
Ah oui, mais ça c'est Cyrano. Je parle de Cyrano,
oui,
hein, bien sûr.
Il y en a qui vont vous dire, rendez à Cyrano sa vraie orientation sexuelle.
C'est vrai. Bon, mais alors ça... Moi, je pense qu'à partir du moment où on estampille le fiction, on est tranquille.
On est tranquille jusqu'à ce qu'on se retrouve après les infos avec Alexis Michalik.
Europe 1, en balade avec Alexis Michalik. Europe 1, en balade avec Alexis Michalik. Frédéric Tadei.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Alexis Michalik, des dizaines et des dizaines de Molières à son actif, quatre pièces de théâtre à l'affiche à Paris, dont Edmond, énorme succès dont il a fait un film, et à présent romancier avec Loin, à nouveau, un premier roman qui vient de sortir chez Albin Michel. Et on est dans l'Est parisien, dans son quartier, on arrive à la Brasserie Phénix où nous attend Régis Vallée, son meilleur ami, c'est ça ?
Absolument.
Bonjour Régis.
Bonjour.
Régis Vallée, comédien, metteur en scène. Il nous a déjà fait le coup du meilleur ami, ou plutôt de la meilleure amie.
Ben voilà, j'ai une meilleure amie et un meilleur ami.
Voilà. Vous la connaissez ?
Très bien, je travaille pas mal avec elle, vu que ma première mise en scène, c'était un de ses textes.
Je parle d'Aïda Asgharzadeh, avec qui nous étions tout à l'heure.
Tout à fait.
Qui elle aussi est auteure et metteur en scène et comédienne de théâtre.
Tout à fait. Oui, j'ai ma première mise en scène, c'était avec Aïda dedans, et c'était un des textes qu'elle avait coécrit, La main de Leïla, et la prochaine, ça sera Les poupées persanes.
Vous connaissez depuis quand, tous les deux ?
Alors Régis, en fait, je l'ai rencontré au conservatoire du 19e, quand j'ai commencé à monter mon premier spectacle, Le mariage de Figaro. Il se trouve qu'il y avait un espèce de grand mec avec les cheveux très longs, et qui jouait de la guitare et qui avait des Birkenstock, et je lui ai dit mais tu joues de la guitare, tu joues bien, et il a dit oui, et je dis bon bah vas-y viens, et donc du coup il a joué dans le premier spectacle, et je me suis rendu compte quand on est arrivé à Avignon la première fois qu'il était très costaud, qu'il pouvait vraiment tracté toute la journée, qu'il était jamais fâché, qu'il était toujours de bonne humeur, il portait le décor.
J'étais très mauvais acteur, mais j'étais sympa.
T'étais pas si mauvais que ça. T'étais déjà un bon comédien, mais t'avais d'autres qualités qui
Il joue dans toutes vos pièces depuis.
Voilà, et depuis, effectivement, il joue dans à peu près toutes les pièces où il est disponible.
Vous jouiez quoi dans Edmond ?
Le mauvais acteur. Mais je portais beaucoup. Non, je jouais Jean, le fils de Coquelin, effectivement, que Coquelin embauche et impose dans toutes ses pièces.
Plusieurs rôles, puisque.
Ouais, je faisais aussi Courteline.
Plus de 30 personnages.
Ouais, il y a beaucoup de personnages. Mais Régis, c'est un peu sa spécialité.
Acteurs.
Il était aussi dans Le Porteur d'Histoire, où il a créé le rôle de Dumas et plein d'autres.
Mais vous, Alexis Michalik, en dépit de vous faites d'énormes succès, mais sans jamais aucune star. Il n'y a pas de star. Vous écrivez pas pour les stars, vous écrivez pour des troupes.
Ouais, enfin, la star, c'est le spectacle.
En fait, c'est du narcissisme.
Non, c'est pas moi, c'est le spectacle. C'est-à-dire qu'on est tous au service de l'histoire. Mais on parlait justement de Dumas tout à l'heure. Et Dumas, c'est l'histoire avant tout. Même en dépit du style, alors qu'un Hugo, un Zola, il y a une profondeur sociale.
Enfin, Alexandre Dumas, quand il écrit Kean, c'est le héros, il y a une star.
Oui, bien sûr.
Et Rostand, quand il veut faire Cyrano, il cherche une star.
C'est vrai. Écoutez, je ne sais pas trop quoi vous répondre. C'était pas quelque chose de volontaire ou de sensé. Quand j'ai écrit Le Porteur d'Histoire, on partait pas sur l'idée de faire un succès. Et c'est seulement parce que ça a été un succès qu'on s'est dit, bon, bah, en fait, la formule fonctionne comme ça. Donc continuons à appliquer cette formule, puisque c'est n'importe quel producteur de théâtre vous dira, c'est tellement mieux de ne pas avoir de vedette.
Oui, mais en même temps, ils en cherchent tous.
Bien sûr.
Bah, et quand vous leur apportez un projet, ils vous disent, c'est qui la vedette ?
Ben, bon, pas moi, mais...
C'est vrai qu'avant Le Porteur d'Histoire, il y a eu pas mal d'aventures avignonnaises. On a bien écumé les rues d'Avignon pour ce festival, avec le mariage de Figaro, un Roméo et Juliette qu'il avait créé, où on jouait tous les personnages à trois comédiens, et une mégère à peu près apprivoisée, en comédie musicale qui s'était jouée après... au Splendide.
C'est pas angoissant d'ailleurs Avignon parce que il y a énormément de spectacles dans le off, comme chacun sait. Tout le monde tracte toute la journée, c'est-à-dire distribue des tracts pour attirer, espérer attirer du monde. Il y a des spectacles qui restent vides ou qui font.
Oui, c'est vrai.
Voilà, ça doit être très angoissant.
Pour moi, c'est une jungle républicaine, c'est-à-dire que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Quand ça démarre, si le spectacle est bon, si on tracte bien, si on a bien fait son travail, peu importe s'il y a des stars ou pas, si le spectacle est bien, le bouche à oreille va fonctionner. Et le spectacle va marcher. Et moi, c'est ce que j'ai conservé dans tous mes spectacles, c'est ce côté, si le bouche-à-oreille fonctionne, alors il y aura du monde dans la salle, donc il faut que le spectacle soit bon, et tout le monde, les acteurs, la lumière, tout le monde est au service de cette histoire et de ce spectacle.
Vous n'avez jamais fait un flop encore ?
Si, enfin j'écris beaucoup, donc il y a plein de choses qui n'ont jamais vu le jour, on va dire, surtout. Plus que
mais il n'est pas arrivé avec un de vos spectacles ou quand vous faisiez la mise en scène, tout simplement, au départ.
À Avignon, on a eu une déception.
Ouais,
c'était Hiver de Zignaris. Je jouais dans les deux spectacles et on avait La Mégère en comédie musicale déjantée au Théâtre des Béliers qui cartonnait tous les soirs. Et on avait Hiver, qui était une tragédie moderne, qui était très compliquée à. C'était assez compliqué à vendre. Et donc oui, ça a été un peu plus
non,
dur.
Non, mais il n'y avait pas grand monde dans la salle, mais ce n'est pas ça qui comptait. Enfin, moi,
il dit ça aujourd'hui, mais à l'époque, il faisait quoi comme tranche ?
Non, à l'époque, vraiment, ce n'était pas grave. Moi, ce qui comptait, c'était de créer le spectacle. Mais je pense que même le porteur et tous les autres, je les crée toujours avec la même intention. Le but n'est pas de faire un succès. Le but, c'est vraiment de faire un spectacle.
Et d'être vu, quand même.
Oui, bien sûr. Mais si on commence à réfléchir en termes de comment je peux faire un succès, on n'y arrivera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne, le théâtre et la création en général. Le théâtre et la création en général, c'est les pièces qui ont de la sincérité, qui dégagent de l'émotion, qui sont justes, qui sont touchantes, qui sont fortes, qui sont des sujets magnifiques, qui sont drôles, qui sont émouvantes, qui fonctionnent. Pas les pièces qui sont taillées pour marcher.
Puis même vraiment le porteur d'histoire, on pensait faire un four complet en venant à Avignon. On avait une affiche marron d'un arbre mort, un spectacle qui était impossible à résumer, à pitcher. Et on se disait, mais un auteur inconnu à l'époque. Et c'est vrai qu'on se disait, ça va pas marcher. On jouait à 22h30 dans une petite salle, dans la petite salle des Béliers. Et puis finalement, il s'est passé un truc génial de bouche à oreille.
Nous sommes attablés au Phénix, il fait beau et je vais poser évidemment la question que je suis obligé de poser à Régis Vallée. Est-ce que Alexis Michalik a changé depuis qu'il a eu du succès ? Mais je vous laisse le temps de réfléchir, on se retrouve dans un instant pour la réponse.
Europe 1, en balade avec Alexis Michalik.
Comme chaque dimanche, jusqu'à midi et demi, vous retrouvez Frédéric Taddeï dans les rues de Paris avec un invité. Et aujourd'hui, c'est Alexis Michalik qu'on retrouve à ses côtés. Et vous allez entendre, ils ne sont pas seuls.
Nous sommes à la terrasse du Phénix, dans l'avenue Corentin Cariou, dans le 19e arrondissement, avec Alexis Michalik et son ami de toujours, Régis Vallée. Alors Régis, est-ce que Alexis a changé depuis qu'il a eu du succès ?
Ben non, en tout cas, de ma perspective, non, et j'espère que ça ne sera pas le cas. J'espère qu'il n'y aura pas trop de gens qui vont...
Il était déjà bronzé comme ça, avec des lunettes de soleil, blond avec les yeux bleus.
La première fois que je l'ai rencontré au conservatoire du 19e, quand il est venu me voir en me disant « Tu fais de la guitare ?» T'as quel âge ? Donne-moi ton numéro. Je me suis dit, c'est qui ce mec ? Et puis en fait, à Avignon, il y a eu de forts liens d'amitié qui sont noués dans la galère. Et depuis, c'est un fidèle. C'est quelqu'un qui sait s'entourer. Je pense que c'est bien pour garder l'équilibre. Et puis non, on garde nos petites habitudes du 19e. On va à l'escalade.
19e arrondissement ou du 19e siècle ? Parce que comme il est obsédé par Alexandre Dumas...
Un peu des deux. Non, on va à l'escalade dès qu'on peut, le matin. Si, je le vois un petit peu moins. C'est un petit peu moins pratique à ce niveau-là. Il est pas mal occupé. Là, il revient de Macédoine. Il a ses promos. Donc voilà, je me plains auprès de vous à ce niveau-là. Je perds mon copain un petit peu, mais sinon, ça va. Il reste zen pour l'instant.
Alors c'est marrant parce que quand j'ai lu votre... Vous avez lu son roman, Loin ?
Oui, il m'a pas mal engueulé.
Beaucoup de temps à lire.
Il me l'avait donné il y a à peu près 2 ans sur ordi. J'aime pas lire sur ordi, donc j'attendais d'avoir le manuscrit.
deux ans.
Non, évidemment, Régis, il faut savoir qu'il il agrandit toujours toutes ses histoires. C'est un Marseillais. Donc ça doit faire à peu près un an que je lui ai donné. Mais un an, c'est quand même déjà long hein, quand on a quelque chose de son meilleur ami.
Quand on attend un verdict.
Ouais, ouais. Alors, ça t'a plu bah, je vais m'y mettre, pas de problème. J'ai dit, mais tu sais, le livre va sortir avant que tu l'aies lu. Et effectivement, ça s'est pas joué à grand-chose.
Non, je l'ai fini début juillet, je crois.
Bravo, Régis.
C'est un roman de voyage, c'est un roman initiatique, c'est un roman d'aventure. Dieu sait s'il en arrive. Il arrive tout le temps des choses. On voit que vous avez le même souci pour, en écrivant un roman qu'en écrivant une pièce. Il ne faut surtout pas que les gens s'ennuient.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Surtout quand on écrit 640 pages, il ne faut pas qu'ils s'ennuient vite, quoi, parce que sinon, ils ne vont jamais aller au bout. Quoi. Mais et puis, c'est un roman sur l'amitié aussi. Hein. D'ailleurs, donc Régis avait d'autant plus... c'était important qu'il voit cette lecture-là, parce qu'il y a un peu de moi dans les personnages, il y a un peu de mes amis dans les personnages, c'est normal.
Bah, peut-être qu'un jour, il le lira et qu'il se reconnaîtra.
Qu'il le commencera, déjà, ce serait bien.
Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est pas du tout... J'y ai vu aucun pastiche. Alors, je vois souvent dans vos pièces, il y a un goût du pastiche. Vous parliez des premiers spectacles que vous avez fait ensemble. Il y avait toujours du pastiche. Dans Roméo et Juliette en comédie musicale, dans La Mégère apprivoisée en comédie musicale, et même dans Edmond. Moi, pour moi, Edmond, c'est un pastiche de Cyrano. C'est Cyrano, je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs,
c'est pas faux,
revu et corrigé par Georges Feydeau et Georges Courteline, qui sont deux personnages d'ailleurs de la pièce.
Et c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'au fur et à mesure de l'écriture, on a de moins en moins besoin de recourir à ce que vous appelez pastiche, ou en tout cas à une distance. Je pense que, en tout cas, plus j'écris et plus je me livre. Et roman et loin, bah, je me livre un peu plus. Et Intramuros, déjà, je me livrerai encore un peu plus. Et le prochain, bah, je me livrerai peut-être encore un peu plus. Il y a quelque chose où on se débarrasse un peu. Parce que quand on crée au début, on imite. On essaie de bien imiter. Parce qu'on a vu plein de choses qu'on a adorées. On essaie de faire à la manière d'eux. Et plus on avance, plus on trouve son ton. En tout cas, si on est sincère et qu'on est honnête. Et en trouvant son ton, on se débarrasse de ce...
Mais faut-il forcément se livrer? Après tout, on peut faire aussi œuvre de totale imagination.
C'est pas se livrer...
J'imagine que c'est le cas, d'ailleurs, dans Loin.
Oui, oui. Bien sûr, c'est pas se livrer, c'est pas raconter sa vie, c'est pouvoir parler de manière plus simple et plus naturelle et plus profonde, si on en a, de la profondeur, mais en tout cas sans imiter, en étant soi-même, quoi.
Notre table respire l'amitié, la gaieté, la joie de vivre. C'est le moment d'écouter Every Kind of People de Robert Palmer. Et c'était la chanson du bonheur et de
Every
l'amitié.
Every Kind of People.
Frédéric Taddeï se balade avec Alexis Michalik sur Europe 1. C'est the fight to make ends meet. Keeps a man up on his feet. Holding down his job. Trying to show he can't be bought. Who takes every kind of people? Yeah. Every kind of people to make the world go round. Someone's looking for a lead in his duty to a king or to a queen, protecting what he feels. Who takes every kind of people to make what life's about, yeah? It takes every kind of people to make the world go round. I'm not afraid to
C'était Every Kind of People, chanté par Robert Palmer. À tout de suite.
Après avoir fait un sacré tour du 19e arrondissement, la balade de Frédéric Taddeï et Alexis Michalik touche à sa fin.
Eh bien, c'est sur le tracé de la Petite Ceinture que nous terminons notre balade avec Alexis Michalik et son ami Régis Vallée. Le bruit des pierres que vous entendez, ce sont les pierres qui séparent les deux voies de chemin de fer qui autrefois faisaient le tour de Paris. Ça a fermé aux voyageurs en 1934, hein, c'était pas hier. Ils avaient gardé juste le tronçon du côté d'Auteuil. Et depuis, ça ne sert à rien. Sinon, à se promener quand on est passé par-dessus les grilles.
J'ai bien senti que vous aviez l'âme aventurière.
Oui, c'est un tracé que je connais bien. Moi aussi, je suis né à Paris, alors forcément, je l'ai emprunté. Alors, c'est très calme, il n'y a pas de bruit. En fait, ça ressemble au film hollywoodien qui se passe après la fin du monde.
Ouais. C'est ça.
C'est quelque chose que vous n'avez pas encore raconté. Vous n'êtes pas tellement futuriste dans vos pièces.
Oui, ni trop négatif non plus.
Non plus.
J'essaie de garder l'espoir, quoi qu'il arrive. Mais je pense que c'est des choses qui viendront plus tard, quand mon jeune espoir, ce sera tari et que j'aurai des raisons d'en vouloir au monde.
Mais est-ce que ça n'est pas aussi parce que vous voulez faire un théâtre populaire?
Bien sûr, évidemment. Et puis, qui inspire aussi, un théâtre inspirant. Moi, ce que j'aime, c'est que les gens sortent en ayant une envie, que je sorte d'une lecture ou d'une pièce en se disant ça me donne envie d'ouvrir un livre, ça me donne envie de retourner au théâtre, ça me donne envie de prendre un billet d'avion et de voyager.
Vous savez que c'est de plus en plus mal vu de prendre des billets d'avion.
Ouais, c'est vrai, je sais.
C'est vrai que c'est la morale. S'il y a une morale dans votre livre, dans Loin,
c'est qu'il faut tuer la planète.
Roman, c'est qu'il faut prendre des billets d'avion.
Ouais, c'est vrai. Non, parce qu'il se démerde autrement. Il voyage aussi en Lada.
Oui, c'est vrai, parce que votre héros ne supporte pas l'avion. Enfin, il
finit par s'y faire. C'est vrai que la Lada ne pollue pas. C'est bien.
Lada ne pollue pas, effectivement, moins que l'avion en tout cas. Non, mais c'est le paradoxe. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise entre eux, je dois pas heurter la planète. Effectivement, si on veut pas heurter la planète, on reste chez soi et on utilise une draisienne. Et puis j'ai envie de voyager et de voir un peu le monde et de m'ouvrir un peu à l'inconnu. Et dans ce cas-là, sans avion, c'est quand même très compliqué. Ouais, on arrive à un endroit où il y a des gens.
Bonjour. On croise des gens. C'est vraiment très...
Un petit potager, là.
Il y a effectivement un potager, il y a des gens qui cultivent. Ça ressemble à une république indépendante.
Oui, c'est ça, ouais. Ils sont en autarcie. Ils mangent leurs propres légumes.
Ouais.
C'est le nouveau Larzac.
Là, écoutez, on est dans Paris, donc il y a des chantiers partout, y compris sur la Petite Ceinture. On arrive dans un chantier. Et là, on ne doit pas passer, il faut qu'on passe à droite.
C'est bien, on suit un peu le principe du roman, quoi. On est sur de l'aventure, on va de plus en plus loin. On sort de notre zone de confort, on était au café tranquille, et puis là, tout d'un coup, on commence à se dire, mais où est-ce qu'on va? Qui sont ces gens?
Voilà, au fond, en fait, on voyage par accident.
Exactement, l'aventure, elle vous prend.
Frédéric Taddeï se balade avec Alexis Michalik sur Europe 1.
Vous avez eu envie parfois de ne jamais revenir?
Oui, je l'ai beaucoup fantasmé. Mais entre le fantasme et la réalité, il y a un monde. Parce qu'au bout d'un moment, on s'ennuie quand même. Et l'ennui, c'est pas mon meilleur ami.
Ah oui, la peur de l'ennui. Hein.
Ouais, ou l'ennui réel. Hein. Quand on se retrouve tout seul au bout du monde, c'est super un moment, quoi. Puis bon, au bout d'une semaine, on se dit, c'est bien, mais je veux bien retrouver mes potes maintenant.
Une fois, il nous a fait cette surprise. On jouait Roméo et Juliette à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie. Et donc, on se retrouve à jouer dans l'extrême nord de l'île. Et un beau soir, on rentre d'une représentation et Alexis, avec son petit sac à dos, qui était là, qui nous avait fait la surprise de traverser.
J'avais fait mes petites 27 heures d'avion, mes trois escales. J'étais arrivé à Nouméa. J'avais regardé où ils étaient. Il se trouve qu'ils étaient à l'autre bout de l'île, un endroit qui était que accessible en bus. Donc j'avais pris trois bus. J'avais roulé toute la journée. Et à un moment, le chauffeur s'est arrêté. Il m'a montré la route et il m'a dit c'est à 19 km. Et donc j'ai commencé à marcher comme ça avec mon sac. Et puis finalement, il y a une Jeep qui est passée qui m'a pris en stop. Et je suis arrivé dans un endroit qui s'appelle Poum, au relais de Poingam.
Oui, je suis allé à Poum.
Voilà, le bout du monde, le bout de la Nouvelle-Calédonie. Et là, j'ai vu trois zigotos qui sortaient de leur case et qui m'ont vu arriver. Je crois que le premier truc qu'ils se sont dit, c'est « Tiens, c'est marrant, ce mec ressemble à Alex.
» Et puisque c'est la fin de l'émission, rendons hommage, comme vous le faites d'ailleurs à la fin de votre roman, à ces hommes qui, il y a des milliers d'années, un jour ont pris de frêles esquifs, un radeau, et sont allés s'installer dans des îles au milieu du Pacifique. Ils ne savaient pas où ils allaient. Et ils sont embarqués en Nouvelle-Calédonie ou en Australie. Et ils sont allés peupler la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française. Fallait quand même en avoir.
Fallait avoir un petit grain quand même.
Fallait en avoir.
Absolument. Ouais.
Parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient.
C'est les vrais aventuriers. Je crois que dans le livre, je distingue trois types de voyageurs. Il y a les touristes, les locaux et les aventuriers. Et les aventuriers, c'est ceux qui partent sans avoir l'intention de revenir.
Et sans savoir où ils vont. Exactement. En plus, hein, en l'occurrence, à l'époque, ils n'avaient pas de carte et ils n'avaient pas de GPS. Merci Alexis Michalik de nous avoir emmenés en balade avec vous. Merci Régis Vallée de nous avoir accompagnés. Je rappelle que votre premier roman, Loin, vient de paraître chez Albin Michel et que vous avez 4 pièces à l'affiche à Paris. Lesquelles et où ça ?
Le porteur d'histoire au Bélier, Edmond au Palais Royal, Intramuros à la Pépinière et le Cercle des Illusionnistes à l'œuvre.
J'en profite pour remercier le Bastringue de nous avoir gentiment accueillis, le Phénix également, et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
Ouais, à dimanche prochain Frédéric. Et pour mieux patienter, on peut retrouver toutes vos balades sur europe1.fr. Dans quelques minutes, ce sera votre journal de la mi-journée, présenté exceptionnellement par Carole Ferry. Et à 15h, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet. Isabelle qui reçoit le journaliste et producteur de cinéma Georges-Marc Benamou dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Il est midi 27, très bon week-end avec Europe 1.